Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez peut-être remarqué dans ces dimanches après l'Épiphanie qu'il commence par le même chant d'entrée. Ces dimanches qui se déplacent pour compléter les dimanches après la Pentecôte, pour arriver jusqu'au 24e dimanche, ces dimanches qu'on dit mobiles sont en vert, couleur de l'espérance, couleur du temps qui passe, couleur de la patience. Et pourtant, nous sommes depuis l'Avent dans des annonces toutes particulières, puisque la personne de Saint Jean-Baptiste nous annonçait la venue du Christ, et finalement c'est un enfant que nous avons eu, et il est devenu adulte en très peu de temps, bien que nous l'ayons vu encore enfant jeudi dernier dans la présentation au Temple. Cet enfant, comme le dit le vieillard Siméon, est présent pour illuminer les cœurs, révéler les pensées intimes. Et en effet, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour cette intimité, pour cette vérité, pour cette sincérité dont le monde moderne parle si souvent et qu'il n'applique pas. Cette sincérité de la pensée qui fait que même dans notre prière plus ou moins fervente, avec plus ou moins de distraction, nous croyons que nous sommes entendus. Parfois, nous le croyons peu, d'autres fois, nous le croyons plus. Mais lorsque la conscience de l'homme lui indique ce qu'il sait ou ce qu'il croit, de vrai ou de faux, de bon ou de mauvais, l'homme ne peut s'empêcher de suivre cette conscience. Tout de moins, il la connaît. Et cette conscience, elle est tellement disputée de nos jours par rapport à l'honnêteté et à la sincérité de chaque personne. Nous pourrons partir de l'enfant en passant par l'adolescent jusqu'à l'adulte et jusqu'à la personne de grand âge. Quatre temps de la vie. Cette conscience de l'enfant, elle est une découverte. Il reçoit tant de connaissances diverses et variées. On va lui donner la sensation, le chaud, le froid qu'il découvre en naissant, le rugueux ou le doux, au point que nous habituons maintenant les enfants à avoir un doudou pendant des années. Une présence aussi, une présence. Parce que ce qui rassure la maman, le papa, eh bien, ne sont pas toujours là. Et cet objet rassure, est une présence, mais c'est une fausse présence, c'est un objet. Et rien ne remplacera la maman ou le papa qui sont appelés à 2h du matin dans des cris ineffables. Mais cet enfant, nous devons lui donner cette présence. Et en même temps, je vais aller vite, sinon ça serait trop long. L'adolescent ou le préadolescent va avoir tellement de connaissances qu'il va être un peu satisfait, suffisant, insolent. Il va prétendre déjà tout savoir. Et les conseils de ses parents et la présence affectueuse de sa mère, de son père, finissent par lui peser. Et il veut découvrir d'autres amis. La famille nombreuse lui donne cette occasion de connaître des personnes différentes, des âmes, des tempéraments tous différents. Et au sein de la famille, de partager tous les événements et de recevoir la cause même de leur existence, la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons défait cette crèche le 2 février, il y a quelque chose qui manque maintenant dans cette église. Et il y a une présence plus exigeante, celle du Christ, dans le tabernacle, dans la Sainte Hostie. Mais c'est une présence qui nous demande une véritable connaissance de ce que le Christ a fait à travers les années, et quand il a pris le pain, et quand il a pris le vin, et quand il les a transsubstanciés en son corps et en son sang, pour anticiper le sacrifice de la croix, mais pour nous donner par sa résurrection sa présence vivante. Mais l'image, par son incarnation, l'enfant Jésus, le Christ, on représente peu le Christ adolescent. Cette présence, les enfants s'y habituent parce que dans l'absence de leurs parents, dans l'absence de leurs frères et sœurs, dans l'absence de leurs camarades, ils sont seuls. Et ils se posent la question, pourquoi suis-je seul ? Mais j'ai promis d'aller vite, donc l'adulte lui-même se pose cette question lorsqu'il est seul. Lorsqu'il se lève le matin, qu'il soit célibataire ou marié, vous n'entamez pas une grande discussion avec votre épouse le matin. Et vous avez des moments dans votre journée où vous êtes seul, même si vous travaillez. Et si vous êtes veuf, et si vous êtes à la retraite, mais n'allons pas trop vite. Cette solitude appelle une présence. Et cette présence nous a toujours appelés à vivre et à nous lever chaque matin pour vivre. Et c'est ce qu'on appelle la morale. Dieu n'est pas ni le hasard, ni le temps, ni des millions d'années. C'est un être intelligent, mais c'est un Père présent, un frère plus difficile à connaître. Mais lorsque nous avons eu des missionnaires, lorsque nous avons entendu parler de l'incarnation, lorsque nous sommes chrétiens, nous savons que Dieu s'est fait homme. Et alors cette présence, elle est plus forte. Imaginez toutes ces personnes à travers les âges, à travers les siècles, qui ont cherché Dieu, la source de leur être, de leur vie, de leur pensée, de leur famille, de ceux qui les entouraient, de savoir comment agir, être heureux ou avoir peur, être bienveillant ou être sévère, pardonner ou être juste, justicier, vengeur. Toutes ces questions morales que tout être intelligent se pose. Et voilà que saint Paul nous dit d'être plein de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais Confucius a dit la même chose. Allez voir les sages de l'Asie et vous verrez que les êtres humains peuvent par eux-mêmes savoir ce que c'est que d'être bon, que d'être équilibré, que d'être doux. Seulement saint Paul nous le dit au nom de Jésus-Christ, non pas au nom de tel ou tel sage qui sont morts et qui n'étaient pas tout puissants, qui ne pouvaient pas récompenser ceux qui suivaient leurs bons conseils. Jésus, lui, non seulement c'est un sage, mais il n'est ni Confucius, ni Gandhi. Il est Dieu. Il a le pouvoir de parler, de nous dire ce qu'est la vie. Mais il a aussi le pouvoir de nous récompenser. Il a le pouvoir de nous dire que notre aspiration à une vie après la mort est vraie. Il a le pouvoir de ressusciter même les corps. Et c'est une bonne nouvelle. Non pas seulement que Dieu existe. Non pas seulement qu'il y ait des 10 commandements, les 8 béatitudes et les 7 péchés capitaux. Vous voyez, dans la prochaine séance de catéchisme, 2e séance sur la confession, nous avons vu l'origine de la confession mardi dernier. Dans 10 jours maintenant, nous verrons l'examen de conscience. Comment se préparer? Les 10 commandements, les 8 béatitudes, les 7 péchés capitaux, les vertus, les dons du Saint-Esprit. Eh bien, ce qui surmonte tout dimanche en vers, tout dimanche après la Pentecôte, tout dimanche après l'Épiphanie, la morale, ce que vous savez de vrai ou de faux, de bon ou de mauvais, la manière dont vous vous exprimez, vous vous mettez en colère, ou vous êtes rancunier, ou vous êtes agacé, ou vous êtes paresseux, ou vous vous recroquevillez sur vous-même, ou vous aimez votre solitude, ou alors votre solitude vous pèse. Eh bien, tout cela, saint Paul nous dit qu'au nom de Jésus-Christ, cela est transformé, et nous ne sommes jamais seuls. Car le Père nous a envoyé son Fils, et Jésus est apparu à des saints, à des saintes, vous me direz plutôt à des saintes, parce que Jésus est attendu par des âmes féminines, des âmes maternelles qui veulent voir Jésus. Mais si Jésus est apparu, si la Vierge Marie est apparue, mais c'est pour soutenir notre foi, c'est pour bien que nous comprenions, même si nous ne bénéficions pas de ces miracles. Le Christ nous entend, le Christ nous voit, le Christ est à nos côtés. Et si tel ou tel ont vu leur ange gardien, c'est aussi pour conforter votre foi. Parce que le temps va être long. Et lorsque nous sommes dans un grand âge, nous nous disons, Seigneur, maintenant, comme Siméon, je vais pouvoir voir cette lumière. Moi qui ai porté tant d'années, moi qui me suis confessé, qui ont reconnu mes torts, moi qui ai espéré, qui ai reçu si souvent la Sainte Communion, je vais enfin vous voir face à face. Oui, mais Dieu est d'une extraordinaire patience et il nous le dit dans l'Évangile de ce jour. Il nous supporte dans nos défauts. Et heureusement, nous lui reprochons de trop supporter le monde actuel, avec tous ses péchés, avec toutes ses lâchetés, avec tous ses mensonges, toutes ses calomnies délirantes actuellement. C'est un feu déroulant. Eh bien, pourtant, Dieu respecte sa paternité. Et en plus, il a mis un obstacle sur sa route. Les anges demandent justice et demandent qu'on arrache la zizanie, qu'on arrache l'ivraie. Le maître du domaine attend la fin des temps. Mais il y a un autre obstacle. Enfin, il y en a deux. Le grand obstacle, c'est la messe. Car à chaque messe, le Christ rend présent le sacrifice du calvaire et la justice recule devant les mérites infinis de cet amour de notre frère aîné. C'est le grand obstacle. Quand il n'y aura plus de messe sur la terre, alors le Père pourra dire à son Fils, « C'est fini, je vais récompenser tous ces siècles d'efforts, d'innocence, de repentir, Et le deuxième obstacle que le Père lui-même a créé, c'est la Vierge Marie. Car la Vierge Marie, elle, ne peut se mettre en colère. Avez-vous vu une mère se mettre en colère contre son enfant ? Oui, parfois. Non, une mère défend son fils même criminel. Et donc la Vierge Marie apparaîtra tant qu'il faudra pour nous dire que Dieu est notre Père, que son Fils est l'agneau, qu'il a un cœur, qu'elle-même a un cœur, et qu'il nous faut porter nos vies, nous lever chaque matin pour croire que nous ne sommes pas le fruit du hasard et du temps, mais des enfants, et dans des enfants de Dieu, un Dieu qui nous a donné son Fils et une mère. C'est tout simple à dire, c'est plus difficile à vivre. Alors, demandons à notre Seigneur, à la Vierge Marie, d'être fidèle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.